Deutsche Welle, Carrefour Europe.
Entre 1914 et 1918, 10 millions d'hommes ont laissé leur vie sur les champs de bataille. Un siècle plus tard, Carrefour Europe revient sur les racines de la Grande Guerre. Qui a mis le feu à la poudrière européenne. Dans ce magazine, l'historien allemand Gerd Krumeich nous apportera son analyse. Nous irons également à Sarajevo, où Serbes et Bosniaques ont leur lecture de l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Carrefour Europe, au micro, Katia Beach. Le 28 juin 1914, il y a un siècle, un événement majeur va plonger l'Europe dans l'horreur. L'archiduc François Ferdinand, héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, est abattu à Sarajevo. L'assassin est un nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip. Mais la guerre a-t-elle réellement commencé à Sarajevo? Monsieur Gerd Krumeich, vous êtes spécialiste de la Grande Guerre, professeur émérite à l'université Heinrich Heine de Düsseldorf et auteur de l'ouvrage à paraître aux éditions Belin, Le feu aux poudres, qui a déclenché la guerre en 1914. Pour vous, monsieur Krumeich, les responsabilités dans cette Grande Guerre sont partagées.
Le moment de 14 même, c'est, à mon avis, indubitablement que c'est l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui ont mis le feu aux poudres. Il y a eu l'impérialisme des grandes puissances européennes et il y a eu des convictions de défense nécessaire de la nation et de l'agressivité des autres qui étaient partout répandues, en France comme en Allemagne.
Et donc après, s'est enchaîné un jeu d'alliances qui a conduit à cette tragédie.
Oui, c'est mon opinion. C'est le jeu des alliances et là, évidemment, les Russes, les Français sont pour quelque chose, tout comme les Anglais. C'était dans un jeu inextricable, qui aurait pu amener à la guerre depuis bien longtemps, depuis la crise d'Agadir de 1911, quand les Allemands ont fait une démonstration navale, si j'ose dire, devant le port d'Agadir, pour convaincre les Français de faire un partage en Afrique. Là, on aurait pu avoir la guerre. Si les Français avaient été prêts à la guerre en 1911, on aurait eu en 1911 cette guerre.
Pour vous, donc, en réalité, l'attentat de Sarajevo n'était qu'un prétexte.
L'assassinat, les Autrichiens qui voulaient depuis bien longtemps se libérer du poids de la Serbie menaçante, et donc les Autrichiens voulaient en découdre avec la Serbie. Et les Allemands ont eu la très mauvaise bonne idée de leur dire « Allez-y, vite, nous on va vous secourir ». Et quand les Autrichiens ont demandé « Mais qu'est-ce qui va se passer quand les Russes vont au secours des Serbes ?», les Allemands, et ça, à mon avis, c'est leur responsabilité majeure. Ils ont dit, si les Russes s'engagent pour la Serbie et militairement, plutôt maintenant que plus tard. Nous ne voulons pas absolument la guerre, mais il vaut mieux la faire maintenant que dans 2 ou 3 ans, quand la Russie sera prête militairement. Donc, ils ont profité de la crise de Sarajevo pour établir une sorte de test. Les Allemands avaient un plan de guerre, le plan Schlieffen, et qui disait, dans le cas d'une guerre entre les puissances, on va d'abord s'occuper des Français, on va écraser la France en 5 semaines, et puis on aura le temps de se tourner vers la Russie, toutes forces réunies. Comme il était aussi plus sûr que les Français aideraient les Russes, les Allemands, ils sont allés selon leur plan.
De quelle manière cette grande guerre a redessiné la carte politique de l'Europe?
La carte politique de l'Europe a été vraiment déchirée, si j'ose dire. Les nouvelles nations qui sont venues dans les Balkans, là, il y a eu une profusion de nouvelles petites puissances au sein de cette Europe, vers l'Est surtout. Le fait majeur, à mon avis, c'est que l'impérialisme européen n'était plus possible après. Les mouvements de protestation dans les pays arabes et africains ont multiplié et le repartage des colonies allemandes par les autres puissances. Mais le fait le plus important, sans doute, c'est l'avènement des États-Unis comme superpuissance, ce qui n'était nullement avant 14 et ce qu'il était en 1920.
Qui a déclenché la Grande Guerre. À l'heure des commémorations, la question agite les Balkans. Le Serbe Gavrilo Princip, l'assassin de l'archiduc, est-il un terroriste ou un héros libérateur? Comment le considérait à l'époque yougoslave? Un siècle plus tard, la guerre des mémoires fait rage dans une Bosnie-Herzégovine toujours divisée. Reportage à Sarajevo de Laurent Gélin.
À Banja Luka, la capitale de la Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, la mémoire de l'attentat de Sarajevo sera célébrée le 28 juin. Dušan Jokić enseigne l'histoire. Pour lui, le jeune anarchiste Gavrilo Princip a libéré la Bosnie du joug austro-hongrois.
Mon idée, c'est d'aller à Sarajevo, que je m'habille en Gavrilo Princip, avec sa petite moustache, sa veste noire et sa chemise blanche, et de dire « c'est moi qui ai tué l'archiduc », et de voir, 100 ans après, comment les gens réagissent.
Pour Dušan, Gavrilo, c'est un peu comme un membre de la famille.
Chez les Serbes, on a une tradition importante, c'est le parrainage. Mon arrière-grand-mère a été baptisée en 1894 et c'est le père de Gavrilo Princip qui était son parrain. Gavrilo Princip, il est du même coin que moi. Son village se trouve juste en face de celui où ma mère est née. Sa maison natale a été détruite par l'armée croate. C'était un musée avant la guerre.
Gavrilo Princip faisait partie d'une organisation révolutionnaire appelée Jeune Bosnie. Ce groupe d'idéalistes était manipulé par la Main Noire, une influente société secrète infiltrée dans les premiers cercles du pouvoir en Serbie. En 1914, la Bosnie était une province dirigée par l'Empire austro-hongrois.
Potiorek, un Slovène qui était gouverneur de la Bosnie, n'a rien fait pour assurer la sécurité de François Ferdinand. La moitié de Sarajevo était au courant qu'il y a des gens qui veulent assassiner François Ferdinand parce que le Serbe s'est senti humilié.
Après la guerre, à la création de la Yougoslavie royale, gouvernée par la dynastie serbe des Karadjordjevic, Gavrilo Princip devient le symbole de la libération des peuples slaves du Sud. La monarchie a besoin de héros, comme l'explique l'historien de Belgrade, Dušan Bataković.
Princip n'a pas tiré à François Ferdinand pour des raisons personnelles. Il a tiré contre le représentant d'un régime colonial. D'autre part, selon la loi internationale, l'annexion de la Bosnie était illégale. Elle était imposée comme un fait accompli, grâce à l'Allemagne. Mon grand-père m'a raconté que Princip était semi-aveugle. Il ne voyait rien, mais il était déterminé.
Gavrilo Princip est mort de la tuberculose dans une prison autrichienne. Son corps a été rapatrié à Sarajevo en 1920. Vuk Bacanovic habite à côté du cimetière où il repose. Le journaliste s'agace des relectures du passé sous un prisme idéologique, tant du côté serbe que du côté croate et bosniaque.
Nous sommes devant la chapelle où est enterré Gavrilo Princip. Elle a été construite peu après la Première Guerre mondiale. Il a été utilisé par le nationalisme yougoslave royal et donc en fait concrètement par le nationalisme serbe.
Après avoir été un symbole de l'unité yougoslave, le jeune révolutionnaire est devenu une figure qui divise dans les Balkans. Depuis les guerres des années 90, beaucoup le perçoivent comme une figure du nationalisme serbe. Sa fête prend le soleil sur le pont latin, juste en face du lieu de l'attentat.
C'est ici qu'a commencé la Première Guerre mondiale où des millions de personnes sont mortes. Je ne sais pas quoi en penser, franchement, mais il aurait mieux valu qu'on reste en Autriche-Hongrie. Comme ça, aujourd'hui, on aurait des salaires allemands.
Cet hiver, la mairie de Sarajevo avait envisagé de dresser une statue de l'archiduc, mais le projet reste pour le moment dans les cartons, en raison des vives polémiques qu'il a suscitées. Laurent Gélin et Simon Rico à Sarajevo pour la Deutsche Welle.
Toujours avec nous, M. Gerd Krumeich, historien, spécialiste de la Grande Guerre. Selon vous, est-ce qu'au regard de la résurgence des nationalismes, on peut faire des parallèles entre l'Europe d'aujourd'hui et l'Europe de 1914 ?
La différence principale pour moi, c'est que l'Europe, aujourd'hui, sait très bien qu'on ne règle plus les différends par l'entremise de guerres. La guerre, pour nous, n'est plus la continuation de la politique que par d'autres moyens.
Comme on le voit à travers ce reportage à Sarajevo, les antagonismes sont toujours profonds dans les Balkans et les lectures de l'histoire sont sensiblement différentes. Est-ce que dans un contexte d'élargissement et de construction de l'Union européenne, est-ce qu'il ne faudrait pas en parallèle construire une mémoire commune ?
Il y aura toujours des divergences nationales. Les Serbes sont pour ainsi dire les assassins nés et il est évident qu'ils se révoltent contre cette idée-là. Et que d'autre part, une tendance à ériger les assassins de 1914 en héros nationaux provient justement de cette mise dans le coin de la Serbie. Mais il faut faire beaucoup d'efforts, partout je dis, pour pouvoir en arriver à une mémoire européenne. N'oublions pas qu'il faut faire un pas aussi pour les Français, pour les Anglais, pour les Belges. Combien de fois, quand je parle de l'Allemagne contre Enghien, pour eux, c'est toujours le Bosch parfait qui a agressé. Et de là, à comprendre que les soldats allemands se sont sacrifiés à la défense de leur pays et pas pour la mainmise sur le monde, il y a un pas à faire. Et ce pas devrait être fait par les autres nations. Mais dans la conscience des Européens, il y aura encore des éclaircissements nécessaires. Pour vous donner le meilleur exemple, à Verdun. Dans l'ossuaire de Verdun, le nécropole national français, et quand je demande qu'à l'entrée de l'ossuaire de Douaumont, il sera établi une petite enseigne où on dit « Ici repose au moins 70 000 Allemands, c'est le refus-nais ». Donc là aussi, il y a des évolutions possibles, voire nécessaires, pour en venir à une conscience européenne de cet événement majeur de notre histoire en commun.
Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous procurer le livre « Qui a déclenché la guerre en 1914 » à paraître aux éditions Belin. Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission Carrefour Europe sur notre site dw.de/français dans la rubrique Europe. Bonne journée à tous et à bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité européenne.